un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 15 juillet 2024 et Jean-Louis, depuis les studios de Radio Libre en Périgord, vous présente cette nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Lundi dernier, nous étions donc le 8 juillet et je vous avais fait part qu'une déclaration de la Fédération nationale de la libre-pensée était en cours de rédaction et je ne pouvais donc pas vous la lire à ce moment-là. Donc je vous propose de commencer cette chronique par la lecture de cette déclaration de la Fédération nationale de la libre-pensée qui a donc été rédigée lundi 8 juillet. C'est important compte tenu de la précipitation des événements depuis cette date, de l'avalanche d'informations, de contre-informations, etc. Voilà. Donc, le titre, c'est « Après le deuxième tour des élections législatives, tout est possible à deux conditions. La rupture totale avec le système, en finir avec les institutions de la Ve République. » Le résultat est clair et net. Échec patent de l'extrême droite rejetée massivement par le pays. Rejet écrasant confirmé d'Emmanuel Macron et de la Macronie. La gauche unie, NFP, remporte la majorité à l'Assemblée nationale. Mais soyons lucides. Tout va être fait, par certains dans tous les camps, pour voler la victoire du 7 juillet 2024 au peuple. Le pays sera ingouvernable si nous restons dans le cadre des institutions de la Ve République. Tous ceux qui voudront respecter la volonté populaire seront immanquablement amenés à remettre en cause l'obstacle que représente la constitution réactionnaire et liberticide de la Ve République. Nul doute que le peuple le soutiendra dans cette entreprise salutaire. Si nous voulons respecter la volonté populaire, il faut briser les institutions réactionnaires et en finir avec la Ve République. On ne peut respecter la volonté populaire et appliquer le programme de la gauche unie qui vient d'emporter les élections en mettant en œuvre les combines politiciennes de la Ve République. Emmanuel Macron a utilisé tous les mécanismes de la Ve République pour ouvrir la voie à l'extrême droite sur l'orientation « moi ou le chaos ». On a eu le chaos et lui. Et il faut en finir avec Jupiter pour se débarrasser du chaos. Comment a-t-il été possible d'en arriver là? Nous avons lu avec intérêt sur Mediapart du 5 juillet 2024. Citation. Le déséquilibre entre le pouvoir législatif et celui de l'exécutif n'a cessé de s'accroître au rythme des révisions constitutionnelles. Tant et si bien, indique Marie-Laure Basilien-Guinche, qu'un gouvernement d'extrême droite pourrait sans difficulté mettre au pas l'administration sur des critères racistes. Et ce, d'autant plus aisément qu'il profiterait d'une majorité, absolue ou relative, composée de députés dont les compétences légistiques ne sautent pas aux yeux. L'Assemblée deviendrait plus que jamais une chambre d'enregistrement, poursuit la juriste, et l'emprise de l'exécutif s'affirmerait davantage encore, ajoute-t-elle. Réforme après réforme, les gouvernements précédents ont pavé la voie à un pouvoir autoritaire en accélérant l'adoption de mesures liberticides. C'est un boulevard qui a été ouvert, affirme encore Marie-Laure Basilien-Guinche. Et elle poursuit. Nous sommes arrivés à la veille d'une élection dans une situation de fragilisation extrême. S'il arrive au pouvoir, le RN pourra à la fois faire usage plus grave et plus discriminatoire et plus liberticide de l'arsenal juridique existant. Il viendra menacer davantage l'état de droit en adoptant de nouvelles lois et de nouvelles règles, explique Stéphanie Hennette-Vaucher. Depuis 2017, alors il faut quand même rappeler que ces lignes ont été publiées sur Mediapart, ont été écrites avant le deuxième tour des élections législatives. Depuis 2017, Emmanuel Macron n'a cesse de s'attaquer à l'édifice légal des libertés, faisant entrer dans le droit commun des mesures d'exception. On ne compte plus le nombre de dispositions adoptées ces dernières années au nom de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme ou de l'urgence sanitaire. La Ve République est le terreau sur lequel prospère l'extrême droite. C'est pourquoi la seule solution est de mettre en œuvre une assemblée constituante élue et souveraine pour que le peuple, et lui seul, décide des institutions qu'il souhaitera pour le représenter et défendre ses intérêts. Comprendre pour agir. À son comité général de septembre prochain, la Fédération nationale de la libre pensée a, à son ordre du jour, la mise en œuvre du procès de la Macronie, où nous établirons toutes les responsabilités des uns et des autres dans cette forfaiture politique au compte du capital. Nous n'oublierons rien, pas un mot, pas un acte, pas une forfaiture de celles et de ceux qui ont ouvert la voie à l'extrême droite par une campagne de haine digne de Gringoire contre les immigrés, les musulmans et contre LFI et Jean-Luc Mélenchon qui refusaient de se joindre à ce cortège ignoble de xénophobie et de racisme. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est Gringoire. La libre pensée se fera un devoir et un plaisir de mettre sur la place publique toutes leurs déclarations, actes et turpitudes. Nous n'oublierons pas, nous n'oublierons rien, car ce qu'ils furent, ils le seront toujours. Quand on trahit une fois, on trahit toujours après, c'est le prix de la gamelle. Nous disons « Macronie » et non « macronisme ». Car utiliser cette expression sous-entendait que l'on a affaire à une pensée politique, un système, alors que la Macronie n'est qu'une combine, celle des copains et des coquins qu'avait initié De Gaulle et ses barbouzes, et qu'Emmanuel Macron a élevé au rang d'institution et de pratique généralisée de l'État. Les macronistes servent le capital et au passage ils se servent allègrement sur le bien public. Emmanuel Macron a ouvert le chemin à l'extrême droite. Nous n'en avons pas fini avec elle, mais dans le même temps, dans ce combat, il faut expurger fort le pays de la Macronie et des macronistes. C'est pourquoi la libre pensée, avec tous ceux qui veulent participer à cet assainissement du pays, organise ce procès public de la Macronie. La libre pensée appelle les militants, les syndicalistes, les travailleurs immigrés, les démocrates, les laïcs, les intellectuels à venir témoigner au procès public de la Macronie en indiquant les exactions de celle-ci dans leur secteur. Prenez contact pour cela avec la libre pensée, donc libre.pensée sans accent, bien sûr, @fndlp.fr. Aujourd'hui, tout est possible à la seule condition de faire une rupture totale avec tout ce qui s'est passé depuis des années. La rupture, c'est d'abord tout de suite l'abrogation des lois scélérates, loi scélérate case 9 de 2017 sur la sécurité publique, sécurité globale, séparatisme, immigration. L'abrogation des lois et mesures antisociales, retraite et décote, chômage, emploi, RSA, AME. Abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques. La Ve République a commencé par un coup d'État. Elle finit dans la pourriture la plus abjecte. Il faut en finir définitivement. Il faut balayer les institutions de la Ve République. La parole au peuple, constituante pour la République. Je vous rappelle donc que ce texte a été rédigé lundi 8 juillet et que donc depuis, bien des choses se sont passées qui, à mon sens, ne remettent pas en cause les lignes que je viens de vous lire, tout au contraire. Alors, je vous avais indiqué que donc Gringoire, à l'occasion de la campagne de haine, je relis le petit paragraphe en question, nous n'oublierons rien, pas un mot, pas un acte, pas une forfaiture de celles et de ceux qui ont ouvert la voie à l'extrême droite par une campagne de haine digne de Gringoire contre les immigrés, les musulmans et contre LFI et Jean-Luc Mélenchon qui refusaient de se joindre à ce cortège ignoble de xénophobie et de racisme. Alors, Gringoire est un hebdomadaire politique et littéraire français de droite fondé en 1928. C'est l'un des grands hebdomadaires de l'entre-deux-guerres, selon une formule inventée par le journal Candide, et qui est reprise non seulement par Gringoire, mais aussi par les hebdomadaires de gauche Vendredi et Marianne, une place importante accordée à la politique avec Pierre Drieux de La Rochelle et Francis Carco. Le Front populaire français et le Front populaire espagnol sont vitupérés par l'hebdomadaire. Il prend parti pour les putschistes franquistes pendant la guerre civile espagnole par opposition au communisme. En 1939, après la chute de la République espagnole, le journal dénonce violemment l'arrivée de réfugiés sur le sol français. « L'armée du crime est en France, qu'allez-vous en faire ?» interroge-t-il en une. Après la publication par l'Action française d'un article calomnieux accusant Roger Salengro d'avoir déserté pendant la Première Guerre mondiale, Gringoire lance une campagne de dénigrement contre le ministre de l'Intérieur. Quand Salengro se suicide, Gringoire ne manifeste aucun regret. et Philippe Henriot et Roland Dorgelès rejoignent la rédaction. Après la défaite de 1940, Gringoire se replie en zone libre et approuve l'armistice du 22 juin 1940, puis la révolution nationale du maréchal Pétain. Donc toute cette information, source Wikipédia. Alors, il est fait allusion là, donc, dans ce petit commentaire. Donc, quand c'est un gros suicide, Gringoire ne manifeste aucun regret. Philippe Henriot et Roland Dorgelès rejoignent la rédaction. J'en profite pour rappeler que Philippe Henriot, c'est celui avec lequel se livre La guerre des Andes, Pierre Dac. Hein, on avait fait une émission spéciale pour l'anniversaire donc, de la radio il y a quelques mois, en revenant donc sur ce film La guerre des Andes et les propos échangés donc, entre Pierre Dac et Philippe Henriot. Vous en souvenez peut-être et vous retrouverez facilement cette émission. Donc aussi bien sur le site de Radio Libre en Périgord que sur le site du groupe Fred Zeller. Voilà. Alors, puisque nous sommes le lundi 15 juillet, donc le lendemain du 14 juillet, je vous propose un article d'histoire qui a été rédigé par Jean-Marc Schiappa, donc, qui est titré « Juillet 1789, coup de force royale et riposte populaire ». Toute personne qui connaît un peu le déroulement de la Révolution, notamment les journées de juillet 1789, est stupéfiée de la ressemblance entre le comportement de Macron et celui de Louis XVI. Bien évidemment, comparaison n'est pas raison. Mais la raison n'interdit pas les comparaisons. Toute personne qui connaît un peu donc le déroulement de la Révolution, notamment les journées de juillet 1789, est stupéfiée de la ressemblance entre le comportement de Macron et celui de Louis XVI. La question psychologique nous importe peu, et il n'est pas exclu au demeurant que le portrait ne tourne pas en faveur de Louis XVI, tant l'impudence macronienne est aveuglante. Ce qui compte est la paralysie sociale et politique aboutissant, d'une part à la paralysie institutionnelle, d'autre part à la solution de cette paralysie par l'intervention populaire. Dans une situation de crise endémique de la fin des années 1780, le roi se décide à convoquer les États généraux. Rappelons que, contrairement à une vulgate trop répandue, les États généraux ne sont pas une structure révolutionnaire, mais une structure de l'ancien régime dont la fonction est de conseiller le roi. Ainsi, Louis XVI peut espérer reprendre l'initiative et faire semblant de recevoir les doléances émises pour mieux gouverner à sa guise. C'est un tour de passe-passe, faire semblant d'écouter le peuple pour mieux le berner. Utiliser des institutions réactionnaires. Le débat évolue à partir du moment où les États généraux sont convoqués. Le roi, en agissant ainsi, unifiait et centralisait le débat. Tant qu'il le contrôlait, aucun problème. Or, ce n'est pas là que gisait le problème, mais dans l'immense et permanente émeute qu'était le pays dans l'automne et l'hiver 1788-1789. Les deux phénomènes, États généraux et révolte paysanne, auraient pu coexister sans se rencontrer. C'est l'impétuosité de la seconde qui a disloqué les premiers. Les États généraux ne pouvaient en eux-mêmes être une issue. Ils étaient une représentation des ordres privilégiés et d'une partie avantagée du tiers qui ne pouvait répondre aux aspirations populaires, mais qui devait contraindre les ordres privilégiés. L'intervention permanente est souvent sous-estimée par l'historiographie des couches populaires. La révolte qui parcourait le pays à cette époque ont forcé le destin. Le 5 mai commence la séance solennelle d'ouverture. La déception est grande. Le discours du roi est insignifiant. Il rappelle son rôle de père pacifique, premier ami de ses peuples, citation. Certes, mais encore. Tout ça pour ça, dirait-on de nos jours. C'est le tiers-État qui est à l'initiative, mais qui, et cela est normal, ruse encore avec l'ancien système. Cette attitude louvoyante n'est pas de la pusillanimité, bien au contraire. La pusillanimité viendra plus tard, quand les constituants verront derrière eux la masse menaçante des paysans, des sans-culottes, des femmes du peuple. Mais c'est cette masse qui, au grand désespoir des constituants, va assurer leur victoire. Le conflit, très provisoirement et très ponctuellement, est encore contenu dans l'Assemblée. Le 17 juin, les États généraux prennent le nom d'Assemblée nationale. La crise révolutionnaire a surgi par l'institution la plus réactionnaire du pays, les États généraux chargés de conseiller le roi, qui se transforme en son contraire en devenant Assemblée nationale. Le roi essaye de reprendre l'initiative, mais il a un coup de retard. Il ordonne la fermeture de la salle de réunion du tiers. C'est trop peu et c'est trop. Qu'à cela ne tienne, le tiers se réunit dans une salle voisine dite du jeu de paume, le 20 juin. Renforcés dans leur détermination par la mollesse royale, les députés jurent de ne jamais se séparer jusqu'à ce que la Constitution fût établie. Citation. C'est le serment du jeu de paume. Chaque jour qui passe voit un cran supérieur dans l'escalade. L'Assemblée est cernée par la troupe du roi, se déplaçant en personne, ordonne la dispersion de l'Assemblée sous la forme qu'elle s'est donnée, le 23 juin. Les députés du tiers refusent. Mirabeau s'écrit qu'ils ne sortiront que par la force des baïonnettes, épisode fameux, même si personne ne sait les propos exacts. Les émeutes prennent un tour plus violent. Ainsi, le 30 juin, plusieurs milliers de manifestants prennent d'assaut la prison de l'abbaye pour délivrer des soldats révoltés. Poussés par cette agitation, l'Assemblée nationale devient Assemblée constituante. Nous sommes le 9 juillet. C'est encore un peu plus s'attaquer au pouvoir du roi. De son côté, Louis XVI ne peut rester sans réaction. Il réunit des troupes sûres autour de Paris et chasse Necker le 11 juillet. Ce dernier s'était mis en retrait prudemment depuis l'ouverture des États. C'est un coup de force. Peu importe qu'il ait une apparence de légalité. Louis XVI a le droit de procéder ainsi. Comme Macron a le droit, par la Constitution de 1958, de négliger le vote populaire. Le coup de force aurait très bien pu réussir. Une donnée est essentielle et va transformer ce coup de force en ouverture de la crise révolutionnaire, les masses, leur intervention. Dès le 11 juillet, les barrières d'octroi qui contrôlaient l'entrée des denrées de première nécessité dans Paris sont brûlées par des groupes massifs de manifestants. Les forces de l'ordre ne peuvent rien faire. Au matin du 14 juillet, par dizaines de milliers, les Parisiens s'attaquent aux armureries, prennent les Invalides, puis se dirigent vers la Bastille, prison et forteresse symbole de l'absolutisme. Mais l'accès leur est refusé. Une bataille s'engage et après de longs affrontements entrecoupés de négociations, la foule envahit la forteresse. Car, en réalité, l'événement majeur est là. Bien plus qu'une victoire militaire sans grande importance, qui ne change rien au rapport des forces et qui est tout dans le symbole. Ce qui ne veut pas dire que cette victoire symbolique fut secondaire. C'est l'impossibilité politique du pouvoir de contrôler la situation qui marque la journée. C'est l'intervention populaire qui, avant le 14 juillet, a tout changé. Paris n'est plus aux ordres du roi. Le 14 juillet au soir, le roi est nu. Comparaison n'est pas raison. Vraiment ? Donc, c'était ce texte de Jean-Marc Chiappa que j'ai trouvé tout à fait intéressant et il me semblait tout à fait utile de vous le lire, de vous le porter à votre connaissance. Alors, pour illustrer cette journée du 14 juillet, eh bien, je vous propose une chanson qui est très étroitement liée à la Révolution française, « Ah, ça ira, ça ira ».
Ça ira, ça ira, le peuple en ce jour sans cesse répète. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Nos ennemis confiants restent là, et nous allons chanter Alléluia. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, cambre le jadis du clergé par là. Comme un prophète, il prédit cela, en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira, ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira malgré les mutins, tout réussira. Ah ça ira, ça ira, ça ira, suivant la maxime de l'évangile. Ah ça ira, ça ira, ça ira, du législateur tout s'accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera, celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, le vrai catéchisme nous instruira, et l'affreux fanatisme s'éteindra, pour être la loi docile. Tout français s'exercera, ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira malgré les mutins, tout réussira. Ah ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra, on va trop bien le nouer pour que ça se délie. Ah ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra, Et dans 2000 ans, on s'en souviendra. Le despotisme expirera, la liberté triomphera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. L'égalité parrainera. L'esclave autrichien le suivra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Et leur infernal clic au diable s'envolera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'était une chanson tout à fait indispensable dans le contexte du 14 juillet. Donc, je voudrais, pour prolonger donc notre chronique, vous faire part d'un texte qui a été publié sur Mediapart et qui est relatif aux interdictions d'un certain nombre de manifestations qui avaient été donc appelées par rapport au passage de la flamme olympique dans différentes localités. Aix, Angers, Arles, Laval, sur le parcours de la flamme olympique, un marathon de manifs interdites. Ils sont une quinzaine à s'être donné rendez-vous ce vendredi 12 mai dans une petite rue à proximité de la Cité du Livre d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Dans leur sac, les militants de la campagne Boycott des investissements sanctions, BDS, se partagent des drapeaux palestiniens, des tracts et une banderole sur laquelle est inscrit « Le génocide n'est pas un sport olympique ». À quelques centaines de mètres de là, la flamme olympique commence à sillonner les rues de la ville. Alors que le collectif s'apprête à rejoindre le quartier des Allées Provençales pour déployer son message, son parcours est interrompu. Citation. Deux policiers en civil ont contrôlé notre identité, confisqué tout notre matériel. Ils nous ont juste autorisé à garder nos keffiyehs, mais spécifié que nous n'avions pas le droit de les agiter, ni de manifester ou de pousser des cris. Rembobine Juliette, animatrice du groupe. Pour protester contre ce qu'ils estiment être une atteinte à leur liberté d'expression, les membres de BDS décident symboliquement de mettre leurs mains devant la bouche lors du passage de la flamme aux Allées Provençales. Leur cas n'est pas isolé. À Arles, Angers ou Laval, celles et ceux qui ont, comme le collectif BDS, voulu exprimer une revendication, ont vu leur message confisqué ou le rassemblement interdit. On a l'impression que le passage de la flamme dessine une France liberticide, observe le professeur de droit public Serge Slama. Il s'accompagne d'interdictions de manifester. On peut le comprendre pour le maintien de l'ordre aux alentours de la flamme, moins à l'échelle de toute une ville, comme c'est parfois le cas. C'est un principe de précaution qu'on a vu se développer depuis l'état d'urgence de 2015 et qui se perpétue. La préfecture ouvre le parapluie et publie un arrêté le plus large possible. Fin de citation. Pour l'État, ces interdictions se justifient par la nécessité d'éviter tout trouble à l'ordre public. Dès le 14 mai, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, indiquait que 32 actions en lien avec le parcours de la flamme avaient été déjouées. Et il ne s'agit pas d'attentats ou d'actes criminels, mais de contestations pour diverses raisons, avait-il précisé en conférence de presse. Sollicité par Mediapart, le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu à notre demande sur le nombre d'actions déjouées aujourd'hui, ni sur leur caractère. Cette notion d'action au sens plus large, sans en préciser la nature, inquiète l'avocat Raphaël Balloul. Citation. Cela apparaît disproportionné par rapport aux enjeux de l'événement. Toute expression est par avance interdite, quel que soit son mode d'expression, y compris quand elle peut être pacifiste. C'est quand même problématique qu'on ne puisse admettre des modes de protestation. Fin de citation. Pour Juliette, la confiscation du matériel du collectif le 12 mai à Aix-en-Provence n'a rien d'étonnant dans le contexte actuel. Depuis le 7 octobre, toute manifestation ou message en soutien à la Palestine ou évoquant le génocide en cours à Gaza a tendance à être interdite. Plusieurs militants ont connu des situations équivalentes lors du passage de la flamme olympique dans leur ville. Membres de l'association France-Palestine Solidarité dans les Alpes-de-Haute-Provence, Christian Salmon et quatre de ses camarades ont voulu marquer le coup lors de son passage par Fort-Calquier, en déployant une banderole questionnant la participation d'Israël aux JO dans un contexte de génocide à Gaza. Mais leur action a été empêchée par les forces de l'ordre, présentes sur place bien avant l'arrivée de la flamme. Nous avons été emmenés dans une rue adjacente pour être contrôlés. Nous étions filmés et notre matériel a été confisqué, commande Christian, qui malgré cet échec s'est rapproché du circuit et a tenté de déployer un drapeau palestinien lors du passage de la délégation olympique. Juste avant que je le sorte, un policier m'a attrapé le poignet, Je n'ai pas résisté. Ensuite, plusieurs policiers nous ont encadrés pendant plusieurs minutes. Nous avons été autorisés à partir plus de 30 minutes après le passage de la flamme. À Laval, Mayenne, pour avoir également tenté de brandir un drapeau palestinien, Jean-Luc Mansart a, lui, passé plus d'une heure au commissariat. C'est assez marquant de mettre en relation mon acte et les Robocop caméras au ventre qui me sont tombés dessus, confie-t-il. Il m'aurait tapé sur l'épaule, dit « Baissez votre drapeau » et c'était OK. Il en est ressorti avec une amende de 135 euros pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique. En amont du passage de la flamme olympique, la préfecture de la Mayenne avait en effet pris un arrêté pour interdire toute manifestation. Jean-Luc Mansart a décidé de contester cette amende. Je ne vois pas en quoi vouloir brandir un drapeau constitue une manifestation. C'est simplement une personne seule qui s'exprime, estime son avocate Marion Augier. Nous constatons que le passage de la flamme est éminemment plus important que leur sort réservé aux enfants et aux familles. Les messages de soutien à la Palestine n'ont pas été les seuls à être dans le giron de la préfecture. Arles, Bouches-du-Rhône, le collectif Bariole en colère, qui souhaitait profiter du passage de la flamme dans la ville pour alerter sur l'abandon du quartier éponyme. Le 10 mai, le collectif poste sur ses réseaux sociaux un appel à une manifestation pacifiste. Ses membres passent les heures suivantes à confectionner banderoles et pancartes. Les revendications sont diverses, les slogans tranchants. Des médiathèques aussi dans nos quartiers. Exclusion, discrimination, quartier ghetto, quartier abandonné, égal racisme social. De l'argent pour vous, pour nous, la flamme et la misère dans nos quartiers. Le 12 mai, les membres du collectif se rendent au quai des Platanes à quelques dizaines de mètres du départ de la flamme pour exhiber leur message. Mais les forces de l'ordre sur place leur auraient expliqué que la préfecture des Bouches-du-Rhône avait pris un arrêté d'interdiction de manifester. Nous avions échangé avec des policiers les jours précédents et ils nous avaient dit que notre rassemblement pouvait avoir lieu, souffle un membre du collectif interrogé par Mediapart. Nos écoles sont en souffrance, nos équipements sportifs également. La jeunesse est abandonnée, poursuit ce membre du collectif. Nous nous battons depuis un an contre l'injustice sociale afin que les enfants puissent être chauffés correctement. Nous constatons à notre grand regret que le passage de la flamme est éminemment plus important que le sort réservé aux enfants et aux familles de ce quartier. Malheureusement, cette municipalité a décidé de rester sourde face aux besoins de la population. À Angers, Maine-et-Loire, c'est un rassemblement des syndicats des agents de la ville pour une revalorisation de leurs conditions salariales qui n'a pas pu se tenir selon les conditions initiales. Prévu de 12h à 14h, il avait été déclaré hors délai par la préfecture qui a interdit toute manifestation entre 14h et 17h. Le professeur de droit public Serge Slama dresse un parallèle entre ces différents messages censurés et rassemblements interdits et les rencontres de football international qui se font au fil du temps aseptisées. Cela me fait penser aux compétitions organisées par l'UEFA. On ne peut plus afficher de messages politiques ou de solidarité dans le stade. Derrière cette vision de la sécurisation de la flamme olympique, il y a cette idée que les événements publics ne peuvent plus être perturbés. Une sorte de société du spectacle dans laquelle les rues de nos villes sont une zone de neutralité, une bulle autour du passage de la flamme. Fin de l'article. Et donc je vous propose de conclure cette chronique du groupe Préséler et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique lundi prochain. Nous serons donc le lundi 22 juillet. À lundi prochain et bonne semaine.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.